sommes entrés maintenant dans une situation nouvelle, caractérisée par le fait que la phase de l'histoire économique du monde dans laquelle nous nous trouvons sera celle où les prix des produits, des matières premières en particulier, subiront une hausse importante et durable. Personne, en effet, même parmi les plus optimistes, n'imagine que le rétablissement de la paix au Proche-Orient aura comme conséquence que les prix du pétrole retrouveront le niveau où ils étaient il y a quelques mois.
Tandis qu'en ce début d'année 1974, Pierre Messmer brosse un tableau pessimiste de la situation, l'Assemblée extraordinaire de l'OPEP, réunie à Genève, s'efforce de lier le problème de la stabilisation des prix pétroliers et celui de l'inflation des pays industriels. Richard Nixon propose aussitôt la réunion d'une conférence groupant sous le parrainage américain les 8 principaux acheteurs occidentaux de pétrole. Michel Jobert représentera la France.
Je vous ai dit, je crois que vous l'avez compris, que nous avions quelques réserves sur l'objet même de cette réunion et même sa composition, fondamentalement sa composition, peut-être même sur le lieu où elle se tiendra, étant donné qu'elle rassemble des pays qui habituellement sont réunis à Paris dans le cadre du comité pétrolier de l'OCDE. Par conséquent, ce n'est pas avec une immense gaieté que j'examine tout ce genre de problème, et le gouvernement français verra ce qu'il a à faire dans cette question. Il est bien entendu que, puisque la communauté parlera d'une seule voix, nous sommes déjà largement complets et nous sommes sûrs que nos thèses seront entendues.
Le samedi 19 janvier, la décision de laisser flotter le franc provoque une session spéciale du Parlement présidée par Edgar Faure.
Le président de la République, sur le rapport du Premier ministre, vu les articles 29 et 30 de la Constitution, décrète, article 1er, le Parlement est convoqué en session extraordinaire pour le mardi 22 janvier 1974. Article 2, l'ordre du jour de cette session extraordinaire comprendra une déclaration du gouvernement sur la politique monétaire et un débat sur cette déclaration. Article 3, le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris le 19 janvier 1974, Georges Pompidou, par le président de la République, le Premier ministre Pierre Messmer. En application de l'article 29 de la Constitution, je déclare ouverte la session extraordinaire.
Michel Debré, au nom de la majorité, souligne le côté positif de la décision gouvernementale.
La décision qu'a prise le gouvernement samedi mérite notre approbation. Et l'orientation politique dont elle est l'expression mérite notre soutien. Mais dans l'état de désordre où nous sommes, il faut des priorités économiques comme il faut des priorités sociales. Il n'y a pas de grande politique sans un effort de cohésion nationale. Il n'y a pas de cohésion nationale sans un effort d'unité sociale. Et si cet effort d'unité sociale n'est pas voulu, vous échouerez dans l'effort de production que vous demandez.
En revanche, Georges Marchais, au cours d'une conférence de presse, s'élève contre cette mesure et réaffirme la position du Parti communiste.
Le flottement du franc sanctionne l'échec de la politique monétaire du pouvoir et de sa gestion au jour le jour, orientée par les seuls critères du profit. Cette dévaluation honteuse manifeste les contradictions croissantes de la politique gouvernementale.
En confiant à un inconnu le rôle principal de son dernier film, Louis Malle avait pris un risque considérable. Pourtant, le talent et la maîtrise du metteur en scène feront de Lacombe Lucien l'un des grands films français de l'année.
Comment un jeune paysan, normal, sain, avec la violence qu'on peut avoir à 17 ans, se trouve embarqué, vraiment par un concours de circonstances, à travailler pour une antenne de la Gestapo. Et comment il y va, finalement, sans aucune idée générale, sans aucune idéologie, sans arrière-pensée politique, parce que sur ce plan-là, il est totalement inculte, c'est un personnage primitif, c'est un instinctif. Moi, je suis bien persuadé que des Lucien Lacombe, il y en a en puissance partout, même en France aujourd'hui, et qu'il suffirait de circonstances historiques pour que d'autres Lucien Lacombe apparaissent à la surface, je crois que c'est une grande partie de la population qui potentiellement peut devenir comme ça.
L'Etna, le plus grand volcan actif d'Europe, entre en éruption le 30 janvier. Au milieu des explosions et des laves incandescentes, c'est la désolation qui s'abat une fois de plus sur une région trop souvent sinistrée.
Un monde d'une centaine de mètres de hauteur a été édifié, 100 mètres de haut sur à peu près 500 mètres de large à la base. Des bombes énormes s'abattent sans s'arrêter sur les flancs de la nouvelle montagne, bombes dont certaines pèsent plusieurs dizaines de tonnes.
Pour avoir dénoncé quatre décennies de totalitarisme communiste, Alexandre Solzhenitsyn est expulsé du RSS, après avoir été déchu de la nationalité soviétique.
Сейчас я на русский перейду, кто-то переводит здесь,
ладно,
да?
Хорошо.
Пожалуйста, переводите тогда, да?
А кто?
Нет, вы будете переводить, да, а вот дальше, да. Ну и поэтому я очень благодарю вас за ваше внимание. Я жалею, что вы столько времени здесь были.
Élection de crise en Grande-Bretagne. 40 millions de Britanniques sont invités à élire 635 députés à la Chambre des communes. Edward Heath, chef du gouvernement, tente de faire admettre des mesures de rigueur et défend l'appartenance de la Grande-Bretagne à la communauté européenne.
Those who look at the record of this government over the past 3.5 years will, I think, at least give us credit for the fact that no matter how great the problems, how major the issues with which we dealt, no matter how big it was, how difficult it was to take, we have had a united cabinet throughout the whole of these 3.5 years.
Harold Wilson retrouve son brio légendaire pour soutenir les thèses du Parti travailliste.
We've been eating Patagonian chicken, eggs from Tibet, or cabbages from Kuwait, Japanese Wensleydale cheese.
C'est un orateur de grande classe, Jeremy Thorpe, que le Parti libéral a choisi pour porter ses couleurs.
Nous avons les sondages d'opinion, seulement un, mais sept sondages d'opinion. Et tout ça dit que nous avons cette grande révidale, nous avons cette support dans le pays. Et moi, je pense que nous avons une situation avec laquelle c'est bien possible que pendant la semaine prochaine, nous allons voir beaucoup de support, plus, n'est-ce pas, pour nous, peut-être 30, 35, 40, quelque chose comme ça.
Après le refus des libéraux de participer à un gouvernement de coalition avec les conservateurs, Edward Heath donne sa démission à la reine qui charge le leader travailliste de former le nouveau gouvernement. En fonction depuis juillet 72, reconduit en avril 73 après les élections législatives, Pierre Messmer est confirmé en février 74 dans son poste de Premier ministre.
Le président de la République vient à nouveau de me nommer Premier ministre. C'est un honneur dont je suis fier. En même temps, le président de la République m'a donné ses directives pour la constitution du nouveau gouvernement. Il souhaite une équipe ministérielle peu nombreuse, c'est-à-dire ayant la meilleure cohésion et la meilleure efficacité possible pour décider et pour agir.
Pourtant, il ne manque pas de personnalités pour exprimer leur irritation et leur scepticisme. Ainsi, l'ancien ministre du général de Gaulle, Christian Fouché.
Quant au remaniement ministériel, vous savez, un de vos collègues de la presse a dit que c'était une opérette. Et moi, je suis moins dur, je dis que c'est un opéra comique. J'ai eu une hallucination, figurez-vous, en regardant M. Messmer l'autre jour à la télévision parler avec nostalgie et gourmandise de la petite table autour de laquelle ils allaient désormais être 16. Et brusquement, la figure de M. Messmer a disparu. Et j'ai vu à la place la figure nostalgique et charmante de Manon qui chantait « Salut notre petite table qui nous réunit si souvent. On y tient, c'est inimaginable, si peu de place en se serrant. » «
Le 3 mars, un décédiste de la Turkish Airlines s'écrase dans la forêt d'Ermenonville. On déplore 346 victimes. C'est la plus grande catastrophe aérienne du siècle.
On a voulu aller voir pour essayer de porter secours. Petit à petit, on a fait à peu près 3 quarts d'heure de marche pour arriver sur les lieux de l'accident. Sur 300 mètres, si vous voulez, la forêt avait été complètement décapitée. Tout était arraché, il y avait des morceaux d'avion. On a commencé à voir des morceaux d'avion 300 ou 400 mètres avant même d'arriver à l'endroit où était le corps de la carlingue, ou tout au moins ce qu'il en restait. C'était pas beau à voir. Il y avait des morceaux sanguinolents un peu partout, qui traînaient dans tous les chemins, accrochés aux arbres, etc. Et à l'intérieur du corps même de l'avion, il y avait un certain nombre de passagers qui étaient restés, mais qui étaient presque complètement méconnaissables, complètement déshabillés, tout nus, et en morceaux presque pas identifiables.
Conformément à l'usage des consultations franco-soviétiques, Georges Pompidou rend visite à Léonid Brejnev, vaguement inquiet des rumeurs pessimistes qui courent sur la santé du président français. La rencontre a lieu à Pitsunda. En dépit du contexte international, Georges Pompidou célèbre le côté positif de cette nouvelle manifestation de la détente Est-Ouest.
Deux pays, en tout cas, sont décidés à tout faire pour qu'un consensus général s'établisse sur des idées et des principes nets, importants, et qui soient une large contribution, non seulement à la détente telle qu'elle s'est réalisée ou telle qu'elle continue de se développer, mais à l'établissement d'une paix durable sur notre continent. Aucun pays n'y est plus intéressé que la France, je n'ai pas besoin de vous le dire.
Le 25 avril, les projecteurs de l'actualité se tournent vers le Portugal où un coup d'état militaire renverse le gouvernement de M. Caetano.
Aquí, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal.
Avant tout, l'image de la Révolution est celle d'un général de 63 ans, à stick, tenue camouflée et monocle, Antonio de Spinola.
Considerando finalmente que o dever das Forças Armadas é a defesa do país, como tal, se entendendo também a liberdade cívica.
À Lisbonne, au milieu des fleurs et des drapeaux surgis de toutes parts, le peuple et l'armée semblent fraterniser.
Uma pinha humana, uma multidão tremenda.
Bientôt, une junte est constituée. Les prisonniers politiques sont libérés. Les partis sortent de la clandestinité. Les leaders en exil rentrent au pays. Ainsi, le socialiste Mario Soares.
Il faut l'unité des forces populaires, il faut l'unité de toute la nation, des forces patriotiques de la nation, pour faire face aux plus grands problèmes que nous posent pour résoudre la guerre coloniale, pour augmenter le niveau de vie de nos concitoyens et pour ne pas décevoir l'enthousiasme du peuple portugais.
Un premier gouvernement civil est installé par les militaires. Il compte 4 socialistes et 2 communistes. C'est le premier malentendu. Il y en aura d'autres. 5 mois plus tard, le chef de l'État, le général de Spinola, en sera la victime. Le lundi 2 avril à 21h, le président Pompidou, qui attendait secrètement la mort depuis 18 mois, s'éteint à l'âge de 63 ans.
Au nom du gouvernement, au nom de toutes les Françaises et de tous les Français, en mon nom personnel, j'adresse à Madame Georges Pompidou et à ses enfants nos sentiments profondément émus et attristés. Nous saluons avec respect le courage d'un homme qui, malgré sa maladie et jusqu'à la veille de sa mort, a assumé en pleine lucidité ses devoirs de chef de l'État.
C'est ensuite l'hommage officiel de la nation et des grands de ce monde. De l'Est et de l'Ouest, chefs d'État et de gouvernement convergent vers Notre-Dame de Paris.
Je vous reçois dans la demeure de Dieu. Je le fais au nom de la communauté chrétienne de Paris, dont, par son baptême, était membre le président Georges Pompidou. Devant sa mort soudaine, mais chaque jour entrevue dans la solitude d'un courageux combat, je vous invite à la prière et à la méditation. En vérité, nous constituons pour cet instant une remarquable assemblée. Elle réunit dans une respectueuse sympathie et le même souvenir les peuples de la terre, leurs souffrances et leurs espoirs.
À peine Georges Pompidou est-il inhumé dans le cimetière d'Orvilliers que les postulants à sa succession s'engage dans la campagne présidentielle. Parmi les candidats du premier tour, un ancien premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, convaincu d'être le seul à faire l'unité contre la gauche.
Que surgissent les hommes nouveaux pour prendre le relais et que la nouvelle société nourrisse nos espérances et que nos espérances ne soient pas un mensonge. Vive la France et vive la République!
Un militant de la lutte écologique, René Dumont.
Les paysans, les ouvriers se sont dit d'accord avec ce combat pour l'écologie. Et je représente ici, voyez-vous, la plus jeune force politique de France qui a décidé de se structurer en mouvement politique. Les écologistes vont se grouper et se lancer dans l'arène politique.
Un ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing, qui espère ajouter aux voix de la majorité celles des électeurs qui ne veulent plus des barons gaullistes.
Je n'ai pas intention de proposer aux Français un programme irréalisable sur le portefeuille des autres. J'ai l'intention de vous dire ce qu'un pays comme la France, compte tenu de ses capacités, de ses moyens, de son activité, de son travail, peut réaliser comme progrès social au cours des prochaines années.
Un artisan de la politique, Guy Hérault, candidat du Parti fédéraliste européen.
Résultats de l'élection ne pourront donner une idée véridique de la force réelle du courant fédéraliste dans notre pays. Aujourd'hui, pour la première fois, malgré l'obstruction dont je suis la victime, les fédéralistes et les régionalistes ont l'occasion de parler à la France entière.
Un trotskiste à la mine soignée, Alain Krivine.
Derrière Royer, c'est le visage du fascisme qui apparaît. C'est le visage d'un ordre moral et de la morale de l'ordre qui apparaît. Royer ne travaille pas pour l'immédiat. Il travaille pour le moyen et le long terme. Il sait que si demain les luttes ouvrières se développent, que si la bourgeoisie reste divisée comme elle l'est maintenant, il y aura toute une série de gens qui seront à la recherche d'une solution musclée, et là-dedans, Royer apparaît.
Une femme, militante syndicale d'extrême gauche et employée de banque, Arlette Laguiller.
Les travailleurs doivent pouvoir, dans ces élections, affirmer aux représentants de la droite que même si les urnes donnent la victoire à Chaban ou Giscard, les bourgeois auraient bien tort de croire que la classe ouvrière et que tous ceux qui dans ce pays vivent de leur travail se résigneront et accepteront sans rien dire de continuer à les engraisser.
L'ancien Benjamin de l'Assemblée et président du Front National, Jean-Marie Le Pen.
Ce ne sont pas les mêmes qui dans tous les domaines de la vie politique n'ont cessé de mentir et de trahir leurs engagements. Je vous en prie, ne confortez pas par un vote tactique, par une malignité politique, par un jeu de bande de billard qu'on veut astucieux pour placer truc devant machin ou machin devant truc. Il est essentiel, il est fondamental que vous votiez pour vos idées.
Un ministre de la 4e République, porte-parole de la gauche unie et du programme commun, François Mitterrand.
Lorsque j'entends M. Chaban-Delmas résumer toute sa politique, je ne lui en connais pas d'autre, dans cette formule « Je suis le seul qui puisse battre Mitterrand », et lorsque j'entends Giscard d'Estaing résumer toute sa politique, il n'y en a pas d'autre, dans cette formule « Je suis le seul à pouvoir battre Mitterrand », je pense que la seule façon de les arranger, c'est de m'élire au premier tour.
Un socialiste alsacien qui rejette le programme commun et la stratégie d'union avec les communistes. Émile Müller.
Notre ambition, c'est de faire passer le courant réformateur dans ce pays. C'est avec espoir que nous nous tournerons au lendemain des élections vers un nouveau regroupement des forces réformatrices de manière à ne pas décevoir après ces élections les 3 300 000 électrices et électeurs qui nous ont fait confiance lors des élections générales de l'année dernière.
Un royaliste nouvelle vague qui n'hésite pas à flirter avec l'extrême gauche, Bertrand Renouvin.
Cette candidature est en fait une candidature d'explication. Je me demande si, en fait, nous ne sommes pas en train de vivre la fin de la Ve République.
Un ancien ministre, Jean Royer, qui entreprend une croisade puritaine.
Il faut offrir à la jeune mère ou à la mère de famille nombreuse, inquiète de leur grossesse, la possibilité d'être accueillie, conseillée, aidée, environnée, protégée, de telle manière qu'elles accomplissent la plus noble des missions ici-bas, c'est-à-dire de transmettre la vie. Il faut aussi que l'information sexuelle, certes ait lieu, mais en l'individualisant ou en la liant à l'information de petits groupes, de manière à ne pas détruire la poésie d'amour.
Un fédéraliste européen qui présente ses thèses avec un enthousiasme religieux. Jean-Claude Sebag.
Dès demain, les forces de l'État et du tout-État tenteront à nouveau de bâillonner les fédéralistes. Il y a une chance, et une seulement, que leur tentative échoue. C'est que vous participiez à notre combat, c'est que vous nous aidiez, c'est que vous nous rejoigniez au-delà du scrutin des 5 et 19 mai.
Le 5 mai, les Français retiendront deux noms, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Et la chronique de l'entre-deux-tours sera l'histoire d'un long duel à suspense.
De même qu'en quelques semaines, vous avez vu le changement que j'ai pu introduire dans la politique de la France, puisqu'au départ j'étais tout seul. Et qu'après quelques semaines, hier soir, nous étions à Paris 100 000. Ce même changement que j'ai introduit dans la politique de la France au cours des dernières semaines, je l'introduirai dans son gouvernement, dans sa société et dans sa transformation sociale.
Président de la République, si vous en décidez, je serai le garant de l'unité nationale et le garant des libertés. Tous les Français y ont leur place, chacun selon ses idées et dans le respect des autres. Françaises, Français, il faut servir le bien commun. Vive la République, vive la France.
Dans cette lutte personnalisée à outrance, 51% des Français choisiront une politique et un homme, Valéry Giscard d'Estaing. Coup de théâtre en Allemagne. L'un des assistants directs du chancelier, espion communiste de longue date, est démasqué. Démoralisé par le scandale, Willy Brandt démissionne le 7 mai.
Am Abend des 6. Mai habe ich dem Bundespräsidenten meinen Rücktritt erklärt und damit die politische und persönliche Verantwortung für Fahrlässigkeiten im Zusammenhang mit der Agentenaffäre übernommen. Diese Entscheidung konnte mir niemand abnehmen. Mein Rücktritt geschah aus Respekt vor ungeschriebenen Regeln der Demokratie und auch, um meine persönliche und politische Integrität nicht zerstören zu lassen.
Le comité directeur du Parti social-démocrate propose son vice-président Helmut Schmidt pour le remplacer.
Kontinuität und Konzentration, das sind die Leitworte dieser Bundesregierung. Die Bundesregierung will heute nicht über ihre Absichten sprechen, ohne zuvor ein Wort an den bisherigen Bundeskanzler zu richten. Wir sind uns der Leistung bewusst, die Willy Brandt für unser Land erbracht hat.
Après avoir reçu la démission de Pierre Messmer le lundi 27 mai, Valéry Giscard d'Estaing nomme le nouveau Premier ministre. Passant outre les objections de l'UDR, il désigne Jacques Chirac, un des hommes de Pompidou.
Le président de la République vient de me nommer Premier ministre. Je lui ai exprimé naturellement ma reconnaissance pour la confiance qu'il veut bien me faire. Je vais maintenant procéder à un certain nombre de consultations pour la formation du gouvernement. Et j'irai lui en rendre compte et lui en parler demain matin.
Les cérémonies d'installation menées tambour battant sont allégées d'un protocole jugé désormais désuet.
Eh bien, messieurs, je viens de passer mes pouvoirs au nouveau Premier ministre. Monsieur Jacques Chirac a toutes les qualités nécessaires pour réussir dans ce poste très lourd à un moment difficile. Et c'est pourquoi j'ai tout à fait confiance dans son succès.
Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Je m'inspirerai de votre exemple. Il est positif s'il en est et je tâcherai d'essayer de continuer dans votre voie. Au revoir, Monsieur le Premier ministre.
Le nouveau ministère est formé sans délai. Après le vote de confiance de l'Assemblée nationale, Jacques Chirac reçoit les dirigeants des organisations syndicales et patronales afin d'entendre leurs doléances. Les deux premières délégations, conduites par Georges Ségui et Edmond Maire, sont accueillies le 12.
Nous avons dit au Premier ministre que dans une telle situation, si des négociations ne s'engagent pas rapidement pour trouver les solutions qu'appelle la situation économique, sociale et la détérioration des conditions de vie et de travail, nous irions vers des tensions sociales.
Nous constatons en sortie de cet entretien qu'une porte est entrouverte grâce à l'action menée par les travailleurs, mais que cette action sera déterminante pour faire que la porte soit plus largement ouverte et qu'il n'y ait pas seulement déclaration d'ouverture prochaine de négociation, mais négociation effective et résultat allant dans le sens de la satisfaction des revendications les plus urgentes.
Jacques Tessier de la CFTC et André Malter de la CGC sont reçus le lendemain.
L'intention très clairement manifestée par le Premier ministre et le ministre du Travail a été de faire une large place à la négociation dans toute une série de domaines. Les perspectives d'évolution, bien entendu, de pouvoir d'achat lorsqu'il y a à les poser branche par branche, mais également dans des domaines, par exemple, comme la politique de l'emploi, comme l'amélioration des conditions de travail. Il nous semble que l'essentiel pourrait se dénouer dans les 4 à 5 mois qui viennent.
Nous avons beaucoup évoqué la concertation. Nous sommes évidemment disposés à défendre les intérêts de nos mandants, ce qui est tout à fait naturel, mais nous tenons compte du fait que le pays traverse des difficultés et que nous sommes également de bons citoyens.
C'est ensuite le tour d'André Bergeron, de Force ouvrière.
Il n'y aura pas de conférence de Grenelle telle que certains l'ont évoqué, et Force ouvrière ne le souhaite pas, mais le gouvernement serait désireux, d'après ce que M. Chirac nous a dit, de ne pas laisser s'enliser les négociations actuellement en cours avec les patrons sur les conditions de travail, sur les problèmes de l'emploi.
Pour aider Valéry Giscard d'Estaing dans sa tâche, Michel Poniatowski, l'ami de toujours, est nommé ministre de l'Intérieur. Dès son entrée en fonction, il organise des descentes de police baptisées Opération coup de poing.
Depuis quelques années, la criminalité n'a cessé d'augmenter. La grande, un peu, et surtout la petite criminalité. Ce que je veux rétablir dans toute la périphérie de la région parisienne, et d'ailleurs dans les zones suburbaines des grandes villes, telles que Lyon, Marseille, Lille, etc., c'est une sécurité.
Pour satisfaire les composantes de la coalition parlementaire, des visages nouveaux sont appelés aux commandes. Ainsi, Jean-Jacques Servan-Schreiber.
Des bombes ont explosé de nouveau dans le ciel du Pacifique Sud et sur la Polynésie. C'est une chose contre laquelle je me suis élevé l'année dernière de toutes mes forces avec le bataillon de la paix. C'est une chose que je désapprouve cette année avec la même conviction.
Mais les prises de position du bouillant ministre des Réformes seront jugées sévèrement. Il sera rapidement démis de ses fonctions. Le soutien de Jean Le Canuet au candidat Giscard d'Estaing laissait prévoir une promotion rapide. le président du Centre démocrate devient ministre de la Justice.
Il ne faut pas interpréter l'amnistie comme l'annonce d'un laxisme. L'oubli du passé ne doit pas faire oublier les nécessités et les rigueurs pour l'avenir. Il ne faut pas voir un encouragement au délit, à la contravention ou à la criminalité dans les mesures qui ont été adoptées. Autre chose est le problème de l'humanisation des peines, qui est naturellement l'un de mes objectifs les plus sérieux.
Pour défendre la cause des femmes, Françoise Giroud est nommée secrétaire d'État à la condition féminine.
Le président de la République m'avait en effet fait cette proposition il y a quelques semaines. Elle m'a été confirmée aujourd'hui par le Premier ministre, je l'ai acceptée. Le moment est vraiment venu de s'occuper d'améliorer la condition féminine en France. Et par améliorer, j'entends personnellement changer sensiblement le rapport entre l'égalité des droits des hommes et des femmes.